Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'avais complètement oublié que le générique était plus court le jeudi et j'étais en train de parler de mes envies de pizza à Grégory Richard qui est avec moi. Bonjour Grégory.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Ambiance Thanksgiving, ambiance détente, bienvenue dans l'épisode numéro 265 du podcast Jeune Actu. Moi c'est Alain Maté, lui c'est Grégory Richard. Donc, le podcast Jeune Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL qui sont là encore une fois la troisième année de suite avec nous Unibet. On vous donnera évidemment les meilleures cotes à la fin de cette émission. Le programme du jeudi, vous avez l'habitude, c'est la preview de la semaine avec l'affiche de la semaine, les pronos et puis les meilleures cotes de notre partenaire Unibet. Évidemment, c'est un jeudi de Thanksgiving, c'est un peu particulier, il y a des matchs en cours, ne vous inquiétez pas, on sera en direct un peu plus tard à 20h pour une autre émission ce soir. On commence tout de suite avec l'affiche de la semaine. Et je suis un présentateur indigne, j'ai oublié Camille Sarabène à la technique, bonjour. Donc l'affiche de la semaine, Minnesota Vikings, 5 victoires, 4 défaites, 1 nul, Green Bay Packers, 4 victoires, 5 défaites et 1 nul. Le match nul, c'était l'un contre l'autre d'ailleurs en début de saison. Rivalité de division, match capital dans la course au playoff. Grégory, est-ce que tu penses que Mike McCarthy a toutes les cartes en main pour faire gagner Green Bay actuellement? Tu la sens la question?
C'est une question piège ou pas? De ce qu'on voit ces dernières semaines, alors oui et non, manifestement il a beaucoup de cartes dans sa manche, que ce soit offensivement ou défensivement, malheureusement de ce qu'on constate ces dernières semaines, et c'est ce qui explique également certaines défaites, certaines courtes défaites hein, des Packers, parce qu'on les a vues bien figurer plus d'une fois, la dernière fois c'était à Seattle, j'ai souvenir du match face aux Rams, où s'il gagne, il n'y a pas grand chose à redire. Mais il y a toujours ce petit grain de sable. Alors vous nous en parliez mardi, la dernière fois c'était Aaron Rodgers, sur d'autres matchs c'est le jeu au sol, la ligne offensive également qui n'est pas des plus convaincantes par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc je te dirais oui, maintenant il faut mettre tous les ingrédients dans le bon sens, notamment, et c'est ce que je disais offensivement, et là ils vont quand même tomber sur une escouade défensive de Minnesota qui va les attendre vraiment au tournant.
Du côté de moi, je te demandais ça parce que en fait côté Green Bay il y a quand même maintenant Kyle Fackrell à 8 sacs, Aaron Jones qui a 6,4 yards par course. On a toujours dit, on a dit longtemps que c'était les deux points faibles quand même de cette équipe de Green Bay. A priori il commence à avoir une défense digne de ce nom, il commence à avoir un coureur qui peut faire le taf, donc j'ai tendance à dire qu'il aurait les cartes en main ce garçon et qu'il commence à être en danger s'il met pas tout ça en place. Après, on a souvent dit, alors je crois qu'on en a reparlé mardi avec Raphaël, mais je voulais en reparler avec toi, on nous dit souvent, Aaron Rodgers, vous lui reprochez rien, il serait parfait, etc. On peut quand même lui reprocher des choses, il encaisse pas mal de sacs, il a encaissé encore justement contre Seattle des sacs très importants sur troisième tentative. Est-ce qu'on peut lui reprocher des choses ou pas? Parce que dans le même temps, il est quand même à 19 touchdowns pour une seule interception, 102 dévals et 3 fumbles perdus. Il a perdu plus de fumbles qu'il n'a été intercepté au final.
Ben encore une fois, ça revient à ce que je disais. Globalement, c'est sûr que par rapport à son jeu au sol irrégulier et à la ligne offensive qui, globalement, est quand même pas bonne cette année, on va pas se mentir, il y a des sacs qui... Je pense qu'il y a des fois où il garde peut-être un peu trop le ballon, son déplacement dans la poche est peut-être pas optimal et il s'attire la pression de manière un peu inutile.
Grégory sourit parce qu'il y a Raoul qui est en train de longer le mur pour pas qu'on le voit dans le cadre. Il arrive pour l'émission de Thanksgiving.
Coucou Ninja. Et donc voilà, c'est sûr que en règle générale, si on regarde depuis le début de la saison, il fait quand même pas un mauvais exercice. C'est parce que le meilleur de sa carrière, voilà, il y a des saisons où il a été MVP qui ont été bien meilleures que celle-là, on est d'accord. Maintenant, voilà, c'est sûr que il n'est pas complètement exempt de tout reproche, notamment sur les fameux matchs perdus de manière un peu étriquée dont je parlais tout à l'heure.
Bon, le point faible des Vikings, c'est la ligne offensive. Justement, Green Bay est à 34 sacks, troisième en NFL là-dessus. Ils ont un match-up qui semble quand même plutôt favorable. J'ai cité Kyle Fackrell, il y a aussi Kenny Clark qui est à 5 sacks et Blake Martinez à 4. Donc ça semble être une des clés de ce match pour Green Bay.
Bah alors, j'ai presque envie de te dire, si tu me permets la transition par rapport à ça, c'est que offensivement, j'ai la sensation qu'on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Deux lignes offensives qui, sur le papier, peuvent être assez séduisantes, mais qui ne sont pas assez performantes. Deux jeux au sol sur courant alternatif. Un coup, on va avoir un bon Latavius Murray. Un coup, on va avoir un bon Aaron Jones. Mais c'est quand même très rare que les deux running backs soient suffisamment productifs. Et puis, on a Kirk Cousins et Aaron Rodgers qui, en effet, en fonction des circonstances, en fonction du casting, et malgré des receveurs qui sont assez performants, parce que bon, Thielen Diggs, on les connaît. Côté Green Bay, Davante Adams fait une bonne saison. Valtez Scantling également se développe bien en cours de sa saison rookie. Donc il y a deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et en effet, Minnesota, à l'instar de Green Bay, va devoir trouver les bons automatismes, la bonne manière de protéger efficacement Cousins. Parce que tu le disais, la menace du côté de Green Bay, elle vient de partout, encore plus, je dirais, que par rapport au front seven de Minnesota, où c'est peut-être plus concentré sur des Hunter ou des Griffin, par exemple.
Du côté des Vikings, c'est quand même une drôle de saison. On les attendait parmi les favoris. Ils se retrouvent finalement à la lutte quand même pour les playoffs. Ils sont loin d'être assurés d'y être. Ils ont plus de jeu au sol. Ils sont à 84,7 yards par match. Ils sont 31e en NFL là-dessus. Ils sont 8e à la passe. C'est ce manque d'équilibre qui leur fait beaucoup de mal aussi.
Oui, bah en tout cas, c'est pas ce qui met Kirk Cousins dans les meilleures dispositions. On rappelle que pour un quarterback qui découvre une nouvelle équipe, un nouveau système de jeu, devoir composer avec la ligne qui a été la sienne et surtout une ligne plus globalement qui n'arrive pas à libérer des brèches à ses running backs. Alors je le répète, on a vu que Latavius Murray était capable de faire quelques bonnes sorties. Dalvin Cook, malheureusement, lui aussi, quand il est performant, parce qu'il traîne des petits problèmes de blessure, mais il y a une protection du ballon qui n'est pas parfaite, etc. etc. Alors, j'ai pas dans l'idée que le run stop de Green Bay soit extraordinaire. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'ils mettent plus la pression au niveau du pass rush qu'ils sont capables de contenir sur le run stop. C'est peut-être, en tout cas, c'est moins flagrant selon moi du côté de Green Bay que ça peut l'être du côté de Minnesota, où on a l'impression que le jeu à la course est vraiment une spécialité de Mike Zimmer. Mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir trouver une carburation. Parce que très clairement, j'ai plus les stats en tête, mais quand le jeu au sol de Minnesota ne fonctionne pas, les victoires, elles ne se comptent même pas sur les doigts d'une main, en l'occurrence.
Et Green Bay est 5e contre la passe, donc en plus, ça ne va pas faciliter le côté unidimensionnel. Il y a deux bonnes défenses aériennes dans ce match. On va passer aux bonnes raisons de suivre cette rencontre. La première, elle est assez simple, c'est que c'est l'heure de vérité. Oui, je fais un peu dans le grandiloquent. Si Mike McCarthy perd, quand même, ça commence à sentir mauvais.
Bah, deux défaites d'écart avec Minnesota. Quand tu sais que Chicago a quand même pris les devants, on est à 6 semaines maintenant de la fin de la saison. Donc oui, en effet, c'est un petit peu resserré sur les positions de wildcard, mais là, très clairement, ça va commencer à sentir le roussi pour Green Bay.
Bon, deuxième argument, c'est l'argument feignasse du jour, puisque c'est l'argument rivalité de division égale match incertain. C'est l'argument qui veut dire je ne trouvais pas de deuxième argument.
C'est le même qu'au match aller, non ?
C'est probablement le même qu'au match aller. Le troisième, c'est un peu de défense. Alors, c'est pas deux équipes qui sont réputées pour leur défense, mais après les cartons qu'on a vus du côté de Los Angeles notamment ou de New Orleans ces derniers temps, là, on pourrait peut-être avoir un match quand même plus équilibré avec une lutte moins explosive, non ?
Oui, bah ce sera un peu moins. Je sais plus quel était le score au match aller.
29-29, je crois.
29-29. Mais voilà, c'était quand même pendant très très longtemps. Je crois que ça s'est un petit peu excité sur la fin de rencontre, mais c'était assez cadenassé pendant longtemps. Je serais pas étonné qu'on ait la même configuration sur ce match-là. Et puis juste, j'ai pas rebondi sur l'aspect match de division. Il y a surtout grosse revanche pour Green Bay, parce qu'on se rappelle des circonstances qui ont amené au match nul au match aller, avec cette interception refusée pour le fameux hit tardif de Clay Matthews, très polémique. Donc voilà, il y a peut-être aussi de la volonté de Green Bay, outre le fait de pas être relégué à deux défaites de Minnesota, le fait de vouloir prendre la revanche par rapport à ce match aller qui leur est sans doute resté en travers de la gorge.
Le pronostic donc après ce match aller à 29 partout, qui gagne le retour ?
C'est pas évident, c'est un des plus durs celui-là pour moi. J'y vais avec Minnesota quand même.
Tu es le leader, tu dois pronostiquer en premier.
D'accord.
Je vais y aller avec Green Bay en l'occurrence. On passe au pronostic justement. Les pronostics, alors avec des scores la semaine dernière qui ont eu lieu, on va passer à la suite.
Non, donnez-le, parce que Alors, qu'est-ce que tu as fait dans l'optique de ta remontada?
La semaine dernière, Grégory a fait 8, Raoul 6, Raphaël 7 et moi
5, c'est ça? C'est 5.
C'est ce que j'ai dit. Le total, ça donne Grégory à 106, Raoul à 97, Raphaël à 99 et moi-même à 93. Bon, clairement, je joue pour ne plus être dernier.
Voilà. Vivement les playoffs, j'ai envie de dire.
Oui, oui. Vivement que je change de règlement. On va donc passer au pronostic. Alors, on pronostique un match qui a commencé, mais on avait donné les pronostics avant. Lions-Bears, ça vient de commencer. Mitchell Trubisky ne joue pas. Il y a 0-0 entre les deux équipes.
Alors, écoute, moi, avant ce match-là, j'hésitais à mettre Détroit quand même, avant de savoir que Mitchell Trubisky était blessé à l'épaule. Le fait que Chase Daniel soit titulaire, ça m'encourage un petit peu plus à mettre les Lions en l'occurrence.
Ah, mais alors faudra qu'on sache comment on valide ça parce que.
Ah non, mais alors.
Parce que nous on a donné mardi avec Raphaël les
pronostics. C'est dans ma grille, sur Google Sheet. Précise, ça a été rempli hier soir.
Il a déjà mis. Bon, d'accord, parce qu'on vous précise évidemment qu'on a une grille Google Sheet qu'on
remplit. J'en appelle à l'huissier, je sais pas si Raoul peut avoir accès.
Très bien. Non, mais ils sont en train de vérifier là, il y a Camille et Raoul qui sont sur le fichier.
J'admire ta confiance. Alors.
Il a mis des trois. Non, mais je te fais confiance. Et du coup, moi, j'ai mis Chicago et je pense quand même que leur défense va les faire gagner.
Très bien.
Coup d'envoi à 22h30 ce jeudi, toujours. Cowboys Redskins. Colt McCoy, titulaire pour Washington. Là encore un remplaçant. Lui, en l'occurrence, c'est définitif pour cette saison. Match physique, a priori. On en a parlé un petit peu mardi avec Raphaël. Moi, j'ai donné Dallas. Tu donnes.
J'y vais avec Dallas également. Je pense que ce sera un match étriqué comme au match aller. Mais du côté de Washington, ça fait un peu beaucoup. Surtout que Dallas a repris du poil de la bête. Donc, oui, Cowboys pour moi également.
Match dans la nuit, cette nuit, 2h20. Saints-Falcons. Donc les Saints à 9-1, les Falcons à 4-6.
Tiens, on peut passer sur ce match-là.
Tiens, on dirait moi qui parle des scores. Est-ce que les Falcons peuvent tenir le rythme?
Jusqu'au coup d'envoi, oui.
D'accord.
Après, ça va être plus dur.
D'accord. À l'échauffement, ils sont compétitifs.
Oui, je pense. Ouais. Alors là, et en plus, Dion Jones joue pas. Alors là, je pense que Ingram et Kamara, ça va être la folie furieuse. Donc
un Saints, quoi.
Bah, je mets jamais les Falcons, donc c'est pas aujourd'hui que je vais me risquer. Donc bon, j'y vais avec New Orleans.
Les Saints pour tout le monde. C'est là qu'ils vont gagner. Tu vas perdre.
Ah bah moi, je prends. Hein.
Coup d'envoi dimanche à 19h. Les matchs de dimanche, c'est Bengals 5 victoires, 5 défaites. Browns 3 victoires, 6 défaites, 1 nul. Les Bengals ont gagné les 7 derniers matchs entre les deux équipes. Ça pourrait peut-être changer vu la défense de Cincinnati, non?
Ouais, retour de Hugh Jackson quand même. À Cleveland, non, il retrouvaille avec les Browns.
Il retrouve les Browns, ouais.
J'y vais avec les Bengals, à titre personnel.
Est-ce que tu as entendu la réponse de Baker Mayfield quand on lui a demandé si ça changeait quelque chose que Hugh Jackson connaisse l'attaque?
J'ai pas vu.
Il a répondu non, et ensuite on lui a demandé des précisions, il a dit juste non.
Très bien.
Grande confiance en son ancien coach.
Non, j'y vais avec Cincinnati aussi parce que AJ Green revient de blessure. La défense des Bengals est très très faible, notamment contre le jeu au sol. Et on sait que la course du côté de Cleveland, c'est une valeur sûre depuis le début de la saison. Après, je pense qu'ils sont capables de maintenir un minimum cette attaque de Cleveland et de faire la différence après offensivement.
Ouais, mais les playmakers, Denzel Ward, Miles Garrett, je vais dire Cleveland.
Cincinnati,
je vais dire Cleveland. Tampa Bay Buccaneers, 3 victoires, 7 défaites. 49ers, 2 victoires, 8 défaites. Tampa est quand même l'équipe qui gagne le plus de yards en NFL devant les Rams, les Chiefs et les Saints. Je tenais à le préciser quand même. C'est l'équipe qui prend le plus de points en NFL aussi, ce qui contrebalance quand même. Est-ce que cette fois leur attaque va suffire contre des Niners qui sont quand même pas équipés a priori pour suivre des énormes rythmes, même s'ils s'accrochent et qu'ils sont en place?
Alors moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que tu le disais, alors paradoxalement on a une équipe de Tampa qui, tu le disais, inscrit des wagons de yards et commet un maximum de turnover, mais cette défense des Niners, même si elle est assez solide globalement, même si elle n'est pas très très glamour de ce qu'on en voit depuis le début de la saison, j'ai pas la sensation en tout cas qu'elle a créé suffisamment de turnover. Donc pour avoir quelle équipe a le dessus, je suis un peu intrigué quand même par San Francisco vu la forme actuelle des Bucks. J'y vais quand même avec Tampa à la maison, mais avec encore l'imbroglio Fitzpatrick, Winston.
C'est fini, Winston est titulaire.
Oui, jusqu'au prochain match.
Juste sur le ratio des turnovers, ces deux équipes sont délirantes. C'est 5 ballons gagnés pour 20 ballons perdus du côté de San Francisco et c'est 6 gagnés pour 29 perdus du côté de Tampa. Donc, a priori, pourrait y avoir quelques pertes de balles dans ce match. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a une des deux équipes qui va faire gonfler son compteur de ballons gagnés. C'est quand même une bonne nouvelle.
C'est quoi les stats pour San Francisco?
5-20. 5 gagnés, 20 perdus. Et 6-29 pour Tampa.
Ah oui, quand même.
Oui, on est généreux.
C'est ce que je pense.
Donc Tampa pour tout le monde. Bills, 3 victoires, 7 défaites. Jaguars, 3 victoires, 7 défaites. Qui aurait pensé que ces deux équipes auraient le même bilan après 10 semaines cette saison? Celui-là, ça va.
Ah, ces deux équipes de play-off l'année dernière, ça aurait pu, mais vrai, pas avec 3-7.
C'est vrai. Bon, Josh Allen est de retour. A priori, il va vivre une soirée compliquée quand même.
Oui, bah surtout qu'on a vu que la défense de Jacksonville avait quand même repris un peu du poil de la bête contre, contre Pittsburgh. Donc là, c'est sûr que même si Buffalo, offensivement, s'est remis un peu en confiance face aux Jets, avec notamment un jeu au sol un peu plus conquérant, sur la distance, j'ai un peu peur que... Mais c'est toujours la même chose. Après, on sait que... Alors là, c'est un peu l'inverse de Tampa, c'est-à-dire que Buffalo marque très peu de points, mais ils sont tellement capables de créer des turnovers, et face à Blake Bortles, il y a peut-être l'opportunité d'en avoir quelques-unes. Ils peuvent rester dans le match, mais voilà, avec Leonard Fournette qui revient bien, voilà, j'ai peur qu'à l'usure, enfin j'ai peur pour Buffalo en tout cas, qu'à l'usure Jacksonville finisse par l'emporter.
Après, la défense de Buffalo n'est pas ridicule quand même, ils sont deuxième de la ligue derrière les Ravens sur les yards autorisés par passe tentée dans les airs. Donc il y a quand même des bonnes choses, mais oui, après à l'usure, je pense en effet que Jacksonville est au-dessus. Ravens, 5 victoires, 5 défaites. Raiders, 2 victoires, 8 défaites. Lamar Jackson, épisode 2. Oakland a la deuxième pire défense au sol de la ligue, au-dessus des Bengals.
De
donc ils montent en puissance.
Ils lui ont fait un programme adapté
dans
en fait.
L'opposition. Il semblerait qu'il y ait encore de la place.
Oui, bah là, oui, manifestement.
Alors, toi qui détestais Lamar Jackson, il faut le dire, dans le process pré-draft.
Je vais te le laisser celui-là.
Est-ce qu'il t'a bien rabattu ton caquet la semaine dernière?
Tout à fait. Bah, j'avais dit que c'est un joueur qui n'avait aucune lecture, enfin, qui, à l'heure où il était drafté, n'avait pas de lecture et courait. On m'est tombé dessus en disant que, bon, voilà, j'étais un hater, comme on aime bien dire. Bah, là, on a vu très clairement que, voilà, si. À mi-saison, enfin après des camps d'entraînement et après 8 ou 9 matchs de saison régulière, si Marty Morninvex se mouille pas trop à lui faire lancer des ballons, c'est que manifestement, niveau lecture, il n'est pas encore complètement au point. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est tête à la patte. Quand, bon, je vais pas faire la review du match contre les Bengals, mais voilà, on a vu quand même qu'il y avait quelques lacunes. Contre Oakland, je suis pas sûr qu'il y aura besoin forcément de forcer son talent dans les airs. Surtout que tu en parlais mardi, voilà, il y a aussi une alternance au sol avec Gus Edwards notamment. Donc oui, ça peut être une longue, longue soirée pour les Raiders en l'occurrence.
S'il a du mal niveau lecture, il faut qu'il commence par des nouvelles, puis qu'il monte petit à petit. Non. Les Ravens sont statistiquement la meilleure défense de la ligue et les Raiders ne marquent que 17 points par match. Donc de toute façon, ça n'augure pas grand-chose de bon pour Oakland. Tu penses qu'il gagne son deuxième match à la suite, Lamar Jackson?
Oui, là franchement... Ouais. En tout cas, s'il le perd contre Oakland, ça peut faire tâche. Surtout dans une période où les Ravens sont un peu dans la course au play-off.
Même question que j'ai posée à Raphaël. Tu crois qu'il garde le job s'il gagne 2-3 matchs de suite?
Je ne suis pas sûr que le match contre Oakland conditionnera tout. Parce qu'encore une fois...
Ça va dépendre de la prestation aussi, évidemment.
Il y a deux défenses passoires quand même. Parce qu'il joue Cincinnati et Oakland. On va voir si les Raiders vont montrer un meilleur visage. Mais ça restera.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
À relativiser, mais on sait que ça va très très vite en NFL. On sait que de toute façon, c'est un premier tour de draft. Donc à un moment donné, il faudra quand même tenter le coup. Il faudra voir s'il tente d'ici la fin de la saison. Mais encore une fois, il y a des playoffs en jeu et il y a un head coach qui joue sa place.
Ravens pour toi.
Ravens pour moi, oui.
Panthers, 6 victoires, 4 défaites. Seahawks, 5 victoires, 5 défaites. Frank Clark est-il la révélation de l'année à Seattle? 10 sacks en tout, 7 sacks sur les 5 derniers matchs.
Alors, révélation, je sais pas, parce que déjà l'année dernière, il était quand même assez performant. C'est sûr que là,
Il m'a dit la même chose avant l'émission. J'ai checké sur lui cette question.
Ça n'a pas marché non plus. Mmh. c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus en lumière, notamment parce qu'il y a un Michael Bennett qui est plus là, voilà. Cliff Avril également qui a arrêté sa carrière. Donc, c'est sûr qu'il est beaucoup plus, sur le devant de la scène. Et puis, c'est un peu lié à tout ça, mais les pertes défensives du côté de Seattle. Alors, je ne vais pas dire qu'on remarque encore plus les quelques playmakers qui leur restent, mais voilà, en tout cas, Frank Clark est devenu vraiment la figure de proue, la tête de gondole de cette défense. Et en tout cas, il répond vraiment aux attentes parce qu'il n'y a pas vraiment, enfin, en tout cas, dans mon esprit, il n'y a pas vraiment de pass rusher capable de lui libérer des brèches. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va chercher. Là, contre les Panthers, il va avoir quand même du travail parce que malgré les pépins physiques qu'il y a sur la O-line des Panthers cette année, il y a quand même un bon boulot. C'est une des équipes qui concède le moins de pass rush sur Cam Newton, même si on sait que le quarterback de Carolina est capable de se déplacer. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera l'élément fondamental là-dessus. Gros jeu au sol de Seattle, mais contre un gros run-stop de Carolina. Donc, j'irai quand même avec les Panthers en l'occurrence.
Bon, match physique. Hein. Seattle est la première équipe au sol de la Ligue. Et on sait que les Panthers aiment bien faire tourner McCaffrey pour que ça marche. Donc, ça va être costaud. T'as dit les Panthers, c'est
Panthers,
ça
ouais.
Je vais dire les Panthers aussi. Les Jets, 3 victoires, 7 défaites. Patriots, 7 victoires, 3 défaites. Rivalité, Patriots qui sortent d'une semaine de repos. Les Patriots ont gagné les 4 derniers matchs entre ces deux équipes. Les Jets ont perdu 22 ballons cette saison. Seuls les Bengals font pire. Donc, sur les stats, a priori. C'est plutôt Patriots. Sam Darnold est, j'ai envie de dire, plus qu'incertain, parce qu'il ne s'est pas entraîné, je crois, encore mercredi. Tom Brady serait un peu touché au genou. Il apparaît sur le rapport des blessures. Je le notifie.
On va beaucoup jouer au sol, quoi.
Voilà. On va limiter les courses de Tom Brady.
Je pense que tu allais le dire, mais il y a le retour de Gronkowski qui peut être intéressant. Et voilà.
Donc, ça peut être évidemment des trucs qui changent tout. Tiens, est-ce que tu es d'accord avec c'était le Daily News, si je ne dis pas de bêtises, qui titre Le Gronk est fini?
Vas-y, mouille-toi.
Non, mais c'est pas un piège, mais est-ce qu'on peut dire qu'en effet, il a peut-être amorcé un certain déclin ou...
Je pense que de toute façon, si l'année dernière, il y avait déjà ces rumeurs de retraite, et encore une fois, on rappelle que Gronkowski, il n'avait pas forcément nié en conférence de presse quand on l'avait emmené sur le sujet. On sait qu'il traîne depuis plusieurs saisons des blessures, notamment des problèmes de commotion. Et voilà, on se rappelle du Super Bowl qui avait manqué. Alors, c'était contre qui? C'était contre les Seahawks, non, qui rate, celui où il se blesse en finale de conférence contre Baltimore?
Non, il joue contre les Seahawks.
Alors, c'est contre Atlanta qu'il le loue.
Contre Atlanta, il le loue, je crois.
Mais voilà, enfin, c'est rare en tout cas qu'il joue tous les matchs sur une saison. Et là, je pense que son corps, à un moment donné, commence peut-être à dire
aussi,
stop.
Le dos est récurrent aussi.
Voilà, aussi. Enfin. Donc, je pense que même chez certains fans des Pats, on commence à constater qu'il est peut-être moins incisif que ces dernières années. Et c'est sans doute aussi lié à ses blessures à répétition. Donc, fini, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une nouvelle de dire qu'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière.
A priori.
Mais à mon avis, j'ai du mal à le voir faire plus qu'une ou deux années supplémentaires.
Sur ce, le pronostic
Patriots.
Patriots pour tout le monde. Eagles, 4 victoires, 6 défaites. Giants, 3 victoires, 7 défaites. On parle rarement de match de la dernière chance en NFCS parce qu'en général, ça se joue sur le dernier tiebreaker de la dernière semaine et tout le monde a 9 ou 8 victoires. Mais est-ce que les Eagles sont si mal en point en attaque que les Giants peuvent se glisser et passer dans ce match?
Alors, je suis content que tu parles de ça, Alain, parce que pour avoir regardé, je suis quand même tombé sur des stats assez ébouriffantes. On se moque beaucoup de l'attaque des Giants, notamment les performances d'Eli Manning, mais j'ai remarqué que les Giants marquent plus de points en moyenne par match que les Eagles depuis le début de la saison. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont allé.
Philadelphie est à 20,5 points, ils sont 24e en NFL.
Ouais, alors ça joue un peu, les Giants doivent être à un peu plus de 21 points. Et surtout, Carson Wentz est plus intercepté qu'Eli Manning depuis le début de la saison. Ça aussi, il y en a pas... Moi j'ai vu 6 interceptions pour Manning et 7 pour Wentz.
T'es sûr? Ça me paraît beaucoup pour Wentz.
Je vais voir, c'est peut-être moi qui ai mal. Moi, il me semble avoir vu cette interception.
Il est sur les meilleurs stats de sa carrière.
Après, attends, autant pour moi. C'est cette interception pour les quarterbacks des Eagles depuis le début de la saison.
Ah, bah ouais, mais t'es dur là.
Foles, il a joué deux matchs. Hein.
Ouais, enfin, il n'est pas responsable des erreurs de Foles, Carson Wentz.
En tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au début de la saison et aux nombreuses critiques qu'on a fait vis-à-vis de l'attaque des Giants, on se rend compte que voilà, c'est surtout Philadelphie qui patine un petit peu. Il y a toujours cette même donnée qui est de savoir comment impliquer Golden Tate et manifestement Peterson, son coordinateur McGraw, ont encore un petit peu de mal dans cette optique-là. Et puis, il y a un jeu au sol qui va devoir être trouvé. Un problème qui n'a plus forcément New York quand on voit que Saquon Barkley est un peu partout. Le gros match-up, forcément, sur ce match-là, c'est Saquon Barkley contre le run-stop des Eagles. Et je serais curieux de voir également ce que va donner Odell Beckham contre ce backfield défensif de Philadelphie un petit peu dépeuplé depuis plusieurs semaines. Donc, les Eagles ont gagné au match aller, ils sont toujours favoris, je vais parier sur les Eagles sur ce match-là. Mais attention, je serais pas étonné que New York gagne ce match. Et si Dallas gagne ce soir, ils seront qu'à deux matchs du titre de division des Giants.
Par contre, t'es pas loin d'avoir raison quand même. 15 touchdowns, 6 interceptions pour Wentz. Mais ça a dû se tasser sur les dernières semaines parce qu'il était plutôt bien parti.
Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, Manning, il me semble avoir vu à 14-6. Je vais pas me tromper, mais voilà. En tout cas,
Philadelphie, juste pour info, on disait il marque 20,5 points par match. L'an dernier, c'était à 28-6. Donc il y a quand même une grosse chute à ce niveau-là. On parlait du départ de Frank Reich dans l'émission de mardi, je vous y réfère. Coup d'envoi 22h05, toujours dimanche. Chargers, 7 victoires, 3 défaites. Cardinals, 2 victoires, 8 défaites. 3 matchs de suite à plus de 100 yards gagnés pour David Johnson. Ça va mieux, mais je pose la question à celui qui jugeait le processus pré-draft, Josh Rosen. On en fait quoi pour l'instant? Qu'est-ce que ça donne?
Je pense qu'il va continuer son apprentissage en espérant avoir une meilleure ligne offensive à l'avenir. C'était un petit peu l'interrogation, l'énigme de le mettre dans ces conditions avec une O-line qui paraissait à la fois légère et en plus fragile. On a vu, voilà, il y a eu la blessure, il y a eu la fin de saison prématurée de Justin Pugh, DJ Humphries qui traîne encore et toujours des pépins physiques. Donc c'est sûr que ce n'est pas les meilleures conditions. Et c'est à l'image de la saison des Cards en règle générale. Donc je pense que il faut qu'il continue son apprentissage. Je pense que là, il va se taper un bon test face aux Chargers, qui en plus vont être un peu énervés quand même d'avoir laissé filer une victoire à leur portée contre Denver.
C'était pour parler un petit peu des Cardinals avant de pronostiquer tous les deux les Chargers.
Oui, bah, après, voilà. Il y a une défense d'Arizona qui peut faire déjouer l'attaque également.
Ils sont quatrième contre la passe, oui.
Voilà,
ils
font donc c'est à surveiller, mais Los Angeles.
22h25, pardon, dimanche. Colts, 5 victoires, 5 défaites. Dolphins, 5 victoires, 5 défaites. Les Colts enchaînent les victoires. Les Dolphins vont récupérer Ryan Tannehill. L'effet Frank Reich à Indianapolis, c'est un peu l'effet Adam Gase qu'on attend depuis 3 ans à Miami, non?
C'est pas beau de présenter les choses comme ça.
Même si c'est vrai, quoi.
Ah, je sais pas, on sait jamais. Après, il y a tellement d'équipes dans la ligue qui sont capables de faire déjouer les pronostics. Miami en fait partie, hein, et encore une fois, ils sont capables de... Moi, il y a une équipe qui est capable de provoquer des turnovers sur le backfield défensif contre Andrew Luck qui est en feu depuis quelques semaines. Il y a un jeu au sol qui, du côté des Colts, quoi qu'on en dise, reste quand même assez irrégulier. Miami, je pense... Non, j'allais dire, je pense va les arrêter, mais peut les arrêter, mais c'est vrai qu'ils ont un
run-stop un peu de cata depuis le début de la saison. Je vais pas être trop cynique parce qu'on va me le renvoyer en pleine tête si Miami gagne, mais oui, ils ont des chances. Elles sont limitées.
Ils ont des chances, mais
j'y crois pas,
c'est
pas
sûr
trop.
Que sur la dynamique, j'y vais avec Indianapolis quand même.
Indianapolis aussi. Broncos, 4 victoires, 6 défaites. Steelers, 7-2-1. Les Steelers sont meilleurs en attaque et en défense. Von Miller fait encore une saison à 10 sacs quand même. Ça va être compliqué de contenir les Steelers, même s'ils viennent de taper les Chargers. Ça semble quand même compliqué pour Denver là.
Ouais, alors du coup, j'ai avancé l'argument de la bonne O-line des Steelers, mais celle des Chargers était bonne également. Donc voilà, quand on a Miller et Chubb pour mettre la pression, et Shane Ray qui peut éventuellement sortir du chapeau de temps en temps, voilà, c'est sûr que ça reste l'atout majeur du côté de Denver. Après, quand on voit que les Steelers, en étant complètement au fond du trou à Jacksonville, arrivent quand même à s'imposer en fin de match, voilà, on se dit que là, ils sont vraiment en pleine confiance, 6 victoires consécutives. Là très clairement, alors on sait que l'année dernière c'était leur petit péché hein, de tomber sur des matchs a priori faciles, on se rappelle de défaites à Chicago par exemple. C'est là où il faut voir s'ils vont confirmer que, voilà, qu'ils restent focus jusqu'au bout. Ils ont potentiellement la première place de la conférence à jouer et là c'est clairement un match à leur portée, donc il ne faudra pas se louper pour les joueurs de Mike Tomlin.
Bon, Steelers pour tout le monde.
Ouais, surveiller la protection de bas, enfin surveiller les petite drop éventuelle de James Conner comme on voit depuis quelques semaines.
Je parlais de saison à 10 sacs, TJ Watt y est aussi du côté de Pittsburgh. Le coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi 2h20, c'est l'affiche de la semaine dont on parlait, Vikings-Packers. Donc on a donné Packers
pour moi
et Vikings pour toi, c'est ça. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin, Houston Texans 7 victoires 3 défaites, Tennessee Titans 5 victoires 5 défaites, rivalité de division. On a l'énigme Tennessee qui est de retour avec Marcus Mariota, une semaine oui, une semaine non. Quand même, Tennessee marque 17,8 points par match, ils sont 28e en NFL. Eux aussi, ils ont l'air d'avoir les armes quand même maintenant pourtant. Il y a des coureurs, il y a Corey Davis qui progresse, il y a TJ Sharp qui n'est pas affreux. Alors évidemment, il manque de Lenny Walker, mais il y a des semaines où on a dit qu'ils avaient les armes, alors je ne sais plus. Je sais
ben
plus
moi
ce
non plus, je sais. Mais Mariota est à 100%?
Alors on ne sait toujours pas. On sait toujours pas, nerf pincé, ce serait pas grave au niveau du coude, mais on sait pas s'il va jouer, on sait pas dans quel état.
Je sais pas, et puis c'est vrai que cette histoire aussi avec Dean Pease m'intriguait un peu, je sais pas trop dans quel état d'esprit ils sont.
Ça c'est l'âge, hein.
Oui, mais ça c'est l'âge, mais après
ça,
voilà.
Ça arrive à tout le monde.
Dans quel état d'esprit est la défense de Tennessee? Enfin, je sais pas trop exactement.
Je fais pas du jeunisme forcené, mais c'est ce qui risque d'arriver quand tu emploies des gens qui ont passé l'âge légal de la retraite, des fois.
Enfin, tu sais, ça veut rien dire. Hein. C'est Gary Kubiak non, qui avait fait un malaise sur le bord de touche à Denver avant sa retraite anticipée. Et pourtant, on misait tous. On pensait tous que ce serait Wade Phillips. En l'occurrence, c'était Gary Kubiak. Voilà, je vais me faire beaucoup d'amis.
C'est pas grave.
En ce genre de Thanksgiving, c'est
ça
important.
Va, la mort fait partie de la vie. Hein.
Pensez aux anciens, hein, passez du temps avec eux. Et non, mais voilà, blague à part. Voilà, faut voir dans quel état d'esprit sera cette équipe de Tennessee. Alors, elle est capable d'être performante sur le run-stop. Après, Houston, on le dit, on le répète, voilà, c'est l'anti-Tennessee. C'est-à-dire que eux, ils sont pas aussi impressionnants que les Titans sur les matchs que Tennessee remporte. Mais en tout cas, ils sont appliqués. 7 victoires de suite, je crois que c'est la meilleure série depuis, dans la ligue. Donc là, c'est un match à domicile. On se rappelle qu'ils avaient perdu très très peu en deuxième semaine sur le terrain de Nashville. Donc il y a une petite revanche à prendre. Et puis là, avec Deshaun Watson qui est dans la bonne carburation, DeAndre Hopkins qui contre des cornerbacks plus qu'irréguliers du côté de Tennessee aura sans doute un match-up favorable. J'y vais avec Houston de mon côté.
Houston également au repos cette semaine, les Chiefs et les Rams, parce qu'ils l'ont bien mérité. On passe au pronostic, aux cotes. Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet. Comme d'habitude, on vous donne 3 cotes, un combiné et un combiné YOLO. Ça commence avec la cote de Grégory.
Bah écoute, j'ai mis Green Bay, c'est ça ?
Tu as mis Green Bay, 2,25.
Qui perd la mémoire.
Bah oui, obligé de te souffler tes cotes.
2,25 pour Green Bay, donc. Avec les arguments qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et ça s'est vu d'ailleurs en match aller. Voilà, ça s'est aussi terminé sur un score de parité parce que voilà, c'est deux équipes avec des caractéristiques similaires. On n'est pas à l'abri, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que Mike McCarthy ait un petit peu tous les ingrédients pour permettre à son équipe d'être devant.
Bah, c'est une bonne cote pour un match équilibré.
Bah, c'est ça. Il y a un bon pass rush du côté de Green Bay contre une mauvaise O-line. Il y a un Aaron Jones qui, ces dernières semaines, a fait quand même quelques bonnes prestations. Donc voilà, si le vent tourne bien en faveur de Green Bay et là ils sont vraiment dos au mur avec une fiche négative, une potentielle élimination derrière, j'y vais avec les Packers pour moi.
Moi je vais dire les Browns, on met mettre de l'argent sur les Browns, oui ça paraissait pas faisable à une époque, mais là contre les Bengals, avec la petite vengeance sur Hugh Jackson, je suis sûr qu'il y a certains joueurs qui vont lui en mettre un peu, et peut-être que Baker Mayfield pourrait se tenir les machines en faisant un signe vers la sideline de Hugh Jackson comme il a fait quand il était à la fac là. Et après aller lui planter un drapeau dans le dos.
Carrément, directement. J'ai hâte de voir ça.
Browns à 2,20 avec le plantage de drapeau. Je ne sais pas quelle est pour la cote du plantage de drapeau. La troisième cote, c'est les Titans. Ils sont à 2,85 quand même, ce qui est une très bonne cote dans un match de division qui est plutôt incertain quand même. Surtout si Marcus Mariota joue, ça peut se tenter de 2,85.
C'était leur même cote à Dallas il y a 2 ou 3 semaines de ça. Hein.
En plus, le combiné de tout ça, ça fait 141,08€. C'est un très beau combiné. Packers, Browns, Titans, 141,08€. Le YOLO, Greg. Alors, le YOLO, on ne paye pas d'appartement cette semaine. On va essayer de rester un peu plus calme. On garde les 3 mêmes cotes, Cleveland, Green Bay, Tennessee, parce qu'elles sont belles. Et on y rajoute Seattle, on y rajoute les Giants, et on y rajoute une troisième qui m'échappe, c'est San Francisco. Voilà, merci. Donc, les Seahawks, c'est 2,25 contre Carolina. Alors, c'est un YOLO, évidemment. C'est des bonnes cotes, donc elles ne sont pas sûres du tout. Carolina est plutôt favori.
On parlait du run stop de Carolina, on a vu que sur certains matchs, il n'était pas toujours régulier. Donc, contre Seattle, ça peut être piégeux.
Donc 2,25, les Giants contre les Eagles, on a dit Philadelphie avance pas trop, il y a des beaux playmakers en face. 2,85 pour les Giants, c'est une belle cote, très belle cote. Et puis les 49ers, dans un match où c'est toujours incertain avec Tampa qui perd des ballons dans tous les sens, ça fait 2,20 pour Tampa, pour San Francisco. Pardon. Et donc là, on a quand même une cote totale à 199,02. Ce qui nous fait un 10€ misé. Combien tu veux, Camille ? 2188,24. Alors, c'est un tout petit peu baissé sur l'appli. Moi, j'ai 1900. Ah ben non, j'ai rien dit. J'ai pas le bonus.
Oui, c'est vrai, parce que là, ça avait beaucoup
j'ai
baissé.
J'ai pas le bonus. Hein. J'ai pas le bonus, ouais. C'est ça. Donc, avec le bonus, c'est ça. Avec le multimax 15%, ça fait 2188,24€. C'est moi qui suis à côté de mes pompes
T'as
aujourd'hui.
T'as fait des études de mathématiques, non ?
Non, j'ai fait L.
Ah, c'est bien ce qui me semblait.
Excusez-moi, ça se voit peut-être. Je sais. Donc, voilà. C'est pas grave. C'est juste que j'avais pas scrollé, non, que j'avais pas vu le bonus. Donc 2188,24€ sur ce très beau YOLO. Voilà pour l'épisode numéro 265 du podcast Touch on Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès 20h. Eh oui, dans une heure. Petite pause pizza pour nous, pour vous. Il y a toujours 0-0, je crois, entre les 49ers et...
entre les Lions et les Bears, tu veux dire.
Ouais, entre les Lions et les Bears, c'est mieux, ouais. Entre les Lions et les Bears, donc il y a toujours 0-0. On se retrouve à 20h pour un nouveau live. On commentera un peu ça, mais surtout, on fera un petit bilan de la mi-saison avec les tops, les flops, avec les auditeurs qui vont appeler, ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc, n'hésitez pas à nous suivre à 20h en direct, dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief, jeudi pour la prochaine. On est là tout le temps. Vous pouvez plus vivre sans nous. Vous avez du podcast à écouter en permanence. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. C'est aussi une manière de nous soutenir. Cliquez sur les liens qui sont sur le site. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre, à rejoindre ceux qui le font. On se retrouve à 20h. Si vous ne pouvez pas nous suivre à 20h, n'hésitez pas à laisser des commentaires. YouTube, iTunes, SoundCloud, tout ça, ça nous aide aussi. Vous pouvez vous abonner sur Spotify. Le site, c'est touchonactu.com, Twitter, @TDActu, @YellowRadioSa, @CamilleSarabène, @AlainMattei. Toute l'actu de la NFL, on l'a dit, TDActu.com. On vous dit ciao, ciao, à bientôt ou à dans une heure. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, plaisir. Camille. Top générique, Camille. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rodcast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.